Chapitre 4. Saladin voit le pied d'un habit noir et toise l'affaire. Saladin débitait toutes ces choses avec un aplomb plein de calme, et son accent allemand, qu'il n'exagérait jamais, donnait à son récit une saveur particulière. Il avait trouvé cet accent tout à fait sous le péristyle de la bourse. « Je fus bientôt arrêté dans le rayon de mes investigations personnelles, » poursuivit-il. « En France, il n'est pas permis de faire la police soi-même. J'avais noué des relations au commissariat du quartier Mazas, et je m'informais auprès d'un inspecteur s'il me serait possible d'entrer à la préfecture sous un nom d'emprunt qui mit à l'abri la noblesse de mes ancêtres. » Il fallait en arriver là, ou abandonner la recherche qui me tenait si fort au cœur. J'avais découvert, en effet, il est à peine besoin de le dire, que la mère de ma Justine avait quitté le quartier Mazas depuis nombre d'années. En Allemagne, comme en France, nous savons nos préjugés contre la police, mais la fin justifie les moyens, et je crois que s'il avait fallu m'affilier à des malfaiteurs pour conquérir le bonheur de petite reine, je n'aurais pas hésité un instant. On soumit le cas à un gros bonnet de la sûreté qui avait la réputation de jauger les gens d'un coup d'œil. Il répondit d'abord que tous les marquis étaient des imbéciles et qu'il n'avait pas besoin d'un fainéant dans sa boutique. Puis il voulut me voir par curiosité, disant qu'un marquis comme moi devait être une drôle de bête. Je lui fus présenté. Il me fit subir un examen de 3/4 d'heure, dans lequel je lui rendis compte des moyens que j'avais employés pour constater l'identité de petite reine. « C'est naïf comme tout, me dit-il, mais c'est joli pour un jeune homme qui n'est pas dans l'état et n'en a pas les outils. » Il m'invita à dîner, non sans me faire sentir le prix de cette condescendance, et me lança dès le soir dans une histoire à faire dresser les cheveux. Il s'agissait de la bande connue sous le nom des habits noirs, qui disparaît de temps en temps pour revenir toujours dénoncée par ses crimes. Selon la coutume de l'association, les habits noirs, après avoir volé et assassiné une riche veuve du quartier Saint-Lazare, auraient jeté dans les jambes de la justice un prétendu coupable que les preuves accumulées avec soin accablaient. C'était aussi complet que l'affaire de l'armurier de Caen, ce pauvre André Ménotte, qui disait lui-même à ses juges « Je suis innocent, mais si j'étais chargé de me juger moi-même, je crois que je me condamnerais ». Il y avait un neveu de la veuve, mauvais sujet, brutal, ivrogne, qui devait hériter d'elle et l'avait menacé. Grâce à moi, le truc des habits noirs fut découvert. Je vous demande pardon, madame, d'employer de pareilles expressions devant vous, et du même coup, ma réputation fut faite. Seulement, les habits noirs courent encore. On ne me foula pas, on me laissa suivre ma pente naturelle, et je fus appelé à faire de la police active dans de grandes occasions. Sans me vanter, je vous aurais retrouvé plus tôt si vous aviez été en France, mais au bout de 5 ans, sachant absolument tout ce que je voulais savoir, et me trouvant en face du vide, puisque ma science n'aboutissait à rien, je donnais ma démission à la sûreté, et je m'embarquais pour l'Amérique avec Justine. Je dirais que j'ai perdu là plus de 2 ans, s'il n'était certain que les voyages forment beaucoup un jeune homme. Justine et moi, nous ne manquions de rien, parce que j'étais chargé là-bas de représenter les intérêts commerciaux de plusieurs grandes maisons de France. Je dois avouer que mes recherches au Brésil furent couronnées d'un médiocre succès. Je ne pouvais vous y trouver, puisque vous n'y étiez plus, mais en bonne police, j'aurais dû tomber sur vos traces. Il n'en fut pas ainsi, et à mon retour en France, le nom de Chavez, sans m'être tout à fait indifférent, puisque je l'avais inscrit dès longtemps dans mes notes, n'éveillait en moi que de vagues suppositions. Il y avait une raison à cela, madame, et vous l'avez déjà deviné si vous connaissez le cœur humain. La tiédeur avait succédé à la passion dans mes recherches, ou plutôt la passion s'était portée ailleurs, et au lieu de l'ardent désir que j'avais autrefois, peut-être éprouvais-je une sorte de crainte de me rencontrer face à face avec l'objet de mes recherches, la mère de Justine. Justine avait 15 ans, Justine, admirablement belle et pure, me laissait voir naïvement l'attrait qui l'entraînait vers moi. Je n'ai pas l'âge d'être son père. Au moment où je suis tombé sur vos traces, madame, Justine et moi, nous étions sur le point de partir pour l'Allemagne. Mes amis ont en effet obtenu de Sa Majesté la révocation de la sentence d'exil lancée contre un enfant innocent, et si je ne suis pas sûr de recouvrer tous les biens de ma famille, j'ai du moins la certitude de procurer à ma jeune épouse, au sein de ma patrie, une existence honorable et indépendante. » Saladin arrondit son débit pour prononcer cette phrase fleurie. Il était manifestement content de lui-même et regardait Madame de Chavès d'un air vainqueur. Celle-ci, au contraire, semblait avoir perdu la profonde émotion qui l'avait agitée pendant la plus grande partie du récit. Ses beaux sourcils étaient froncés légèrement, et les plis de son visage indiquaient le travail de la réflexion. « J'ai dit, » prononça pompeusement Saladin, « êtes-vous contente de moi, madame ?» Lily lui tendit la main de nouveau, mais évita de répondre à sa question. « Monsieur le marquis, dit-elle, je serais malvenue à élever l'ombre d'un doute sur ce que vous venez de m'apprendre, mais je suis mère, et mon trésor est entre vos mains. Pardonnez-moi si j'attends avec quelque frayeur les conditions peut-être que vous voudrez m'imposer. » « Madame, répliqua Saladin, avec une dignité de plus en plus marquée, ma vie entière répond à cette inquiétude. Je suis gentilhomme, il m'est pénible de vous le répéter, et à l'heure où j'épousais la pauvre orpheline recueillie par moi sur la grande route, j'avais les moyens de donner à ma femme le pain de chaque jour et le respect de tous. « Vous êtes un galant homme, monsieur le marquis, » prononça doucement Madame de Chavès, que dominait toujours une secrète préoccupation. « M'est-il permis de vous interroger ?»« Faites, madame, » répliqua Saladin, cachant son trouble sous un redoublement de fierté. Madame de Chavès sembla chercher ses paroles. « Après tant d'années, dit-elle, tout change, et rien ne reste de l'enfant qui était au berceau, rien. » Elle hésitait et tenait les yeux baissés. Si elle avait regardé Saladin en ce moment, elle aurait vu son masque immobile s'éclairer d'une soudaine lueur. La question qui était sur les lèvres de Madame de Chavès et qu'il devinait déjà était de celle qu'il avait notée. Entre toutes les questions qu'il attendait, c'était celle-là très certainement qui lui préparait la plus triomphante réponse. Il garda le silence et Madame de Chavès poursuivit avec effort. « Votre tâche était deux fois difficile. » Il ne s'agissait pas seulement de retrouver la mère, il fallait encore que la mère reconnût dans la belle jeune femme présentée par vous l'enfant qui marchait à peine. Avez-vous songé à cela ? Ses yeux se relevèrent lentement. Ceux de Saladin étaient fixés sur elle. « J'y ai songé, répondit-il. Et le moyen d'arriver à cette reconnaissance, vous l'aviez ? « Si je ne l'avais pas eu, répondit Saladin, je n'aurais même pas risqué les premiers pas sur cette route hérissée d'obstacles. » Une vive rougeur couvrait les joues et le front de Madame de Chavès. Oh, « Dites, fit-elle, dites, je vous en prie. »« Pourquoi le dire, répondit Saladin, de plus en plus impassible, puisque vous le savez aussi bien que moi. » « Je veux que vous parliez, s'écria la duchesse avec force. Tout dépend du mot que vous allez prononcer. » Elle retenait son souffle pour écouter mieux. Saladin sembla jouir un instant de ce grand trouble qui la mettait à sa merci, puis il prononça lentement « Dieu l'avait marqué, madame !»« Ah !» fit la duchesse en un cri éclatant. Saladin poursuivit. « Il n'y avait que moi près d'elle, quand je la relevais blessée et presque mourante. » Je dus remplir tous les devoirs d'un homme de l'art et donner à l'enfant les soins d'une mère. Votre fille, madame, avait entre l'épaule et le sein, à droite, ce qu'on appelle une envie, une cerise rose et veloutée, que vous dûtes baiser bien souvent. Et elle l'a encore, balbutia Lily, dont tout le corps tremblait. Elle l'avait encore ce matin, répondit Saladin avec un sourire qui n'était pas exempt de fatuité. On se perdrait à vouloir exprimer les sentiments complexes ou même contraires qui peuvent frapper une âme dans un seul et même instant. La duchesse fut blessée violemment par le sens de cette réponse et surtout par le sourire qui l'accompagnait, et pourtant soulevé, en quelque sorte, par une passion supérieure, par la joie immense qui exaltait tout son être, elle quitta son siège en chancelant et ouvrit ses bras pour dire avec transport « Je vous crois, oh, je vous crois, où est-elle ?» Saladin fut magnifique de sang-froid. « Chère madame, dit-il, sans perdre son sourire et en lui prenant les deux mains très affectueusement pour l'aider à se rasseoir, la question n'est pas de savoir si vous me croyez ou si vous ne me croyez pas. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute à cet égard. »« Où est-elle ? » répétait la duchesse comme une folle. « Où est-elle ? » Saladin eut encore son geste de maître d'école. « Ne nous égarons pas, dit-il paisiblement, elle est en un lieu où sa mère l'embrassera bientôt, et si je le veux, mais où personne au monde ne la découvrira si je ne le veux pas. Je suis Renaud, madame la duchesse, quand il s'agit de chercher, ou de cacher, aussi habile à l'un qu'à l'autre de ces jeux. Vous me permettrez de vous rappeler qu'avant de faire cette confession loyale à laquelle rien ne m'obligeait, j'avais eu l'honneur de vous adresser une importante question. » La duchesse se passa la main sur son front. Ses idées vacillaient. « C'est vrai, murmura-t-elle, je me souviens. » Elle regarda Saladin comme pour éclairer sa mémoire et baissa les yeux tout de suite. Quoi qu'elle en eût, cet homme lui faisait répugnance et peur. Et certes, elle était encore bien incapable d'analyser le monde d'impressions qui était en elle. Deux courants opposés la poussaient. Elle était en face d'un gentilhomme que sa fièvre eût volontiers grandi à la hauteur d'un héros. Mais depuis 2 heures que le héros était là, l'échange mystérieux qui a lieu entre deux âmes, loin de faire naître la sympathie, avait produit l'effet contraire. Monsieur Renaud avait empiété par trop sur le jeune marquis de Rosenthal et, dans la joie de madame de Chavès, la nécessité de lier ensemble la pensée de sa fille retrouvée et la pensée de cet homme mettait une poignante amertume. « Veuillez me rappeler, dit-elle, ce que vous désirez savoir. Ma tête est faible et j'ai besoin d'être guidée. » « La forme la plus commode, répliqua aussitôt Saladin, serait en effet l'interrogatoire, mais je ne me serais pas permis. »« Faites comme vous l'entendrez, interrompit madame de Chavès avec fatigue. » Saladin se hâta de rouvrir son carnet et continua tout en feuilletant ses notes. « Je vous rends grâce, je vois que vous comprenez bien ma situation. » « J'ai une responsabilité considérable. On n'élève pas une jeune fille, et quand je dis « élever », c'est pour exprimer mon idée le plus simplement et le plus modestement possible, attendu que madame la marquise de Rosenthal... « Vous pâlissez, madame. Vous déplairait-il d'apprendre que votre fille porte ce titre et ce nom ?»« Pardonnez-moi, murmura la duchesse, c'est la première fois que vous les lui appliquez. » « Je vous pardonne, prononça noblement Saladin. J'ai quelques philosophies et je sais faire la part de l'égoïsme jaloux d'une mère. Nous serons, j'en suis sûr, les meilleurs amis du monde avec le temps. Seulement, je vous répète que j'ai conscience d'être responsable et que, sous aucun prétexte, je ne compromettrai jamais l'avenir de celle qui a été à la fois ma fille et ma femme. Causons, s'il vous plaît, de Monsieur de Chavès. » Lily fit de la tête un geste de consentement résigné. « Je procède selon votre permission, » dit Saladin, qui avait étalé ses carrés de papier sur le guéridon et qui tenait sa mine de plomb à la main. « Monsieur de Chavès était éperdument amoureux de vous, oui, n'est-ce pas ? Très bien, je prends mes notes, ce ne sera pas long. » Lily le regardait faire, la prostration la prenait. « Il était forcé de retourner au Brésil, » continua Saladin. « Il inventa une histoire pour vous engager à le suivre. Quelle histoire ? Une troupe de battleurs embarqués au Havre, en emmenant petite reine. Très bien, ce n'est pas très fort, mais les gens qui souffrent beaucoup sont crédules. Petite reine n'était pas en Amérique, nous savons cela. » Monsieur de Chavès devenait de plus en plus amoureux, et en fait d'amour, c'est un diable, il mettrait le feu aux quatre coins de Paris pour satisfaire un caprice. Comme vous étiez sage, il parla de mariage. Il avait parlé de mariage avant de quitter Paris, dit la duchesse. « Ah bon ? » s'écria Saladin, « vous ignoriez qu'il eût une femme ? » « Je l'ignorais, C'est invraisemblable. Plasmazas, on ne connaît pas dans ses moindres détails la chronique des nobles faubourgs. Et comment se débarrassa-t-il de cette pauvre dame? J'ai ouï parler de cela longtemps après notre mariage, balbutia Lily, une scène de jalousie. Ah, le flagrant délit, nos codes modernes ont, comme cela, des commentaires très dramatiques. Mais savez-vous, s'interrompit-il en prenant à la main un de ces carrés de papier, qu'étant donné le caractère et les mœurs de ce bon monsieur de Chavès, je n'aime pas beaucoup cette note déjà citée, soupçon, fausse absence, aujourd'hui, 19 août 1866, monsieur de Chavès revenu secrètement en embuscade pour surprendre sa femme. À la volonté de Dieu, murmura la duchesse. Permettez, je n'ai pas achevé. La voix partir à cheval avec le jeune comte Hector de Sabran, Grand Hôtel 38. Leurs regards se croisèrent. Celui de la duchesse exprimait une haute et sereine fierté. Sans doute, murmura Saladin, répondant à ce regard. Vous êtes la vertu même, je m'y connais, mais cela ne suffit pas avec un gaillard comme notre grand de Portugal de première classe. Qui sait si l'autre duchesse n'était pas aussi une sainte? Elle est morte, que Dieu ait son âme. Vous l'avez remplacée, tâchons de nous bien tenir. L'intérêt de madame la marquise de Rosenthal exige désormais que vous enleviez à monsieur de Chavès tout prétexte de flagrant délit. Je tiens à vous conserver, ma belle-mère. La duchesse réprima un mouvement de répulsion et dit... Hector de Sabran est le propre neveu de mon mari. Néanmoins, à la suite des événements d'hier, j'ai cru devoir lui défendre ma porte. « Des événements ?» répéta Saladin. « Il y a donc quelque chose ?» Madame de Chavès lui raconta en quelques paroles ce qui s'était passé sur l'esplanade des Invalides. Saladin parut prendre à ce récit un intérêt extraordinaire. Sa mine de plomb joua énergiquement sur le papier. « Tiens, tiens, » fit-il avec un sourire étrange, « son excellence a été voir mademoiselle Saphir, c'est la meilleure danseuse de cordes de la foire. Monsieur de Chavès était-il seul ?»« Il était, » répondit la duchesse, « avec un personnage qui vient fort souvent à l'hôtel depuis quelque temps, depuis que monsieur de Chavès se livre à certaines affaires industrielles. » Nous reviendrons à ces affaires qui m'intéressent beaucoup, interrompit Saladin. Vous serait-il possible de me dire le nom de ce personnage? C'est un Italien, il se nomme le vicomte Annibal Gioja des Marquis Palante. Saladin enfla ses joues et se renversa en arrière sur son siège, sans prendre souci de cacher son profond étonnement. Vous le connaissez? Demanda la duchesse. Au lieu de répondre, Saladin pensait « Les habits noirs sont entrés ici avant moi. Notre comédie s'embrouille. » Madame de Chavès avait croisé ses mains sur ses genoux et ne songeait déjà plus à la question qu'elle venait de faire. Saladin, lui, s'enfonçait de plus en plus dans ses réflexions. Il tombait là sur une révélation tout à fait inattendue et qui devait modifier considérablement son plan. Son enfance, nous le savons, avait été bercée avec les récits de ces hauts faits de l'association de malfaiteurs, les habits noirs. Similor, Échalot lui-même, le bon Échalot, parlait des habits noirs avec le poétique respect qu'on doit aux personnages légendaires. Nous avons dit que l'affaire, l'unique affaire qui avait occupé toute la vie de Saladin, se présentait à lui sous diverses formes. Une des formes de son affaire impliquait une association avec les habits noirs. Un instant, Saladin fut littéralement abasourdi en voyant que les habits noirs étaient à son insu dans son affaire. Son imagination travaillait déjà et il se disait « Si monsieur le duc lui-même, ah, c'est impossible, il est encore trop riche, et pourtant, qui sait, il joue comme un furieux, il a la folie des femmes et il a tué déjà une fois à tout le moins. Je saurai demain si son excellence est oui ou non un habit noir. » Il y avait un grand trouble dans l'esprit de notre ami Saladin, d'ordinaire si net et si calme. C'était un garçon intelligent, mais ce n'était pas un homme de génie. Il préférait les routes plates, quelque longues qu'elles fussent, à ces chemins abrupts où l'on est obligé de gravir et de bondir. Il faut avoir les pieds bien plantés sur un terrain solide et ne subir aucun chaos pour avaler convenablement les sabres. Il s'était bien attendu à modifier, selon les cas, la tournure élémentaire de sa grande idée, dont la forme suprême eût été son tranquille établissement à lui, le marquis Saladin, en qualité de gendre à l'hôtel de Chavès. Mais il avait espéré cela comme on rêve, et ne s'était point fait faute d'attacher plusieurs autres cordes à son arc. La découverte qu'il venait de faire, un pied d'habit noir marqué en creux dans le sable de son île, contrecarrait à la fois tous ses divers projets. On ne peut rien piller quand on entre le dernier dans une place saccagée. Il éprouvait pour un peu cette lamentable déception de l'inventeur qui, venant de prendre un brevet au ministère, trouverait une épure semblable à la sienne déposée dans les bureaux par autrui. Et notez que les inventeurs ont tous des idées à la douzaine, tandis que notre malheureux Saladin n'en avait jamais enfanté qu'une. « Madame, reprit-il, perdant sans le savoir son bel accent de fierté, je bénis la providence qui m'a inspiré la pensée de multiplier les précautions. Il est impossible que vous ne m'ayez pas compris. Toute cette enquête faite par moi n'avait qu'un but, connaître la position que votre fille, retrouvée et reconnue, aurait à l'hôtel de Chavès. » « J'ai compris, en effet, dit la duchesse, et j'ai répondu. N'avez-vous plus rien à me demander ? » Saladin consulta ses notes pour la forme. Il était singulièrement découragé. Il lui semblait que la duchesse elle-même confessait son impuissance. C'était évidemment une reine déchue. Au premier mouvement, elle avait demandé « Amenez-moi ma fille !» Elle avait demandé « Où est-elle » « Vous n'êtes pas la maîtresse ici, » murmura Saladin, exprimant d'un mot le résultat de toutes ses réflexions. La duchesse releva sur lui son regard où il y avait un orgueil triste. Elle était si belle en ce moment qu'il resta comme ébloui. Il lui parut qu'il ne l'avait jamais vue et un vague espoir se ranima en lui. « Monsieur le duc de Chavès a beaucoup souffert, » murmura-t-elle après un silence. Les yeux de Saladin s'aiguisèrent comme s'il eût voulu percer jusqu'au fond le mystère de son âme, mais la duchesse baissa de nouveau ses longs cils et ne parla plus. Saladin changea de ton encore une fois. « Madame, dit-il délibérément, je suis venu ici pour vous rendre votre fille. J'ai trouvé d'abord en vous une grande joie, la joie naturelle à une mère. Maintenant vous voilà inerte et comme anéantie. Il semble qu'un obstacle étranger à moi se soit mis entre votre fille et vous. Je ne vous comprends pas, madame, et cependant il faut que je vous comprenne. » « C'est vous-même, répondit Lily, qui avez mis cette tristesse dans ma joie. Au premier moment, j'ai été tout entière au bonheur, au plus grand, au seul bonheur que je puisse encore éprouver sur cette terre, mais à mesure que vous parliez, j'ai compris qu'un dernier rempart me séparait de ma fille, et je cherche en moi-même les moyens de faire évanouir cet obstacle. J'y parviendrai peut-être, j'y parviendrai sûrement, que ce soit pour elle ou pour vous, monsieur, vous exigez des garanties. Poursuivez, je vous prie, votre interrogatoire, quand vous saurez tout, absolument tout, je vous montrerai le fond de ma conscience et vous jugerez. » Saladin n'était pas homme à éprouver de l'enthousiasme. Néanmoins, il se sentit vaguement ému tant il y avait d'amour profond sous la froideur apparente de ses paroles. Cette femme qui restait maintenant glacée devant lui eût donné, il le sentait, plus que son sang pour un seul baiser de sa fille. « Nous nous comprenons admirablement, reprit-il, et le seul nœud de la question est monsieur le duc de Chavès. Si vous croyez devoir me communiquer à son sujet quelque chose de nouveau, je vous écoute. » Monsieur de Chavès, répondit la duchesse d'un ton lent et rassis, est l'homme le meilleur et le plus cruel que j'ai rencontré jamais. Il adore à genoux, il outrage avec une brutalité féroce. Sa générosité n'a point de borne, mais il est cupide à 16 heures comme un sauvage bandit de l'Amérique du Sud. C'est un gentilhomme, plus que cela, c'est un très grand seigneur, mais c'est un laquais aussi quand la passion le conseille mal. Je ne sais pas ce qu'un grand amour partagé aurait pu faire de monsieur de Chavès. Et il n'a jamais été aimé, murmura Saladin. Il a toujours été haï, dit la duchesse, avec une sorte de dureté. Saladin croyait qu'elle allait poursuivre. Elle fit une longue pause. Il était impossible de voir sans admiration la beauté tragique de son pâle visage. « Moi, qui lui dois beaucoup, reprit-elle avec un douloureux effort, j'ai peur de ses mains où il y a du sang. Ses vices me repoussent, ses fureurs m'épouvantent, et je n'ai jamais pu voir en lui. » Elle s'arrêta encore, mais cette fois brusquement. Les yeux de Saladin brillaient. Il attendit un instant. Quand il vit que la duchesse se refusait à poursuivre, il prit son parti, disant sans trop de regret et d'un ton d'affaire, « Sa fortune, s'il vous plaît ?»« Il est encore très riche, » répliqua la duchesse. « Sur 6 termes de paiement réglés après la vente de ses domaines dans la province de Para, il a reçu 2 termes seulement. »« À quelle somme se montent ces termes ?»« À 300 000 piastres ou 1 500 000 francs. » « Peste, » fit Saladin, « c'est un joli denier, et ses domaines devaient faire un beau morceau de terre. » « Dois-je penser que les 2 premiers termes payés ont été dissipés ?»« En presque totalité, » répondit madame de Chavès. « La vie de monsieur le duc est un tourbillon. Les échos de ses folies furieuses arrivent parfois dans ma solitude, mais jusqu'à ce jour, j'y ai donné peu d'attention. Il joue et perd comme un insensé. Le sourire d'une femme lui ferait prodiguer des tonnes d'or, et il y a en outre sa grande affaire des immigrants, la compagnie brésilienne. » « Ah !» interrompit Saladin, « l'histoire où est mêlé ce précieux Hannibal Guilloja ?» La duchesse approuva d'un signe de tête. « Nous avions dit que nous y viendrions, » reprit Saladin, « mais avant d'entamer ce chapitre, je désirerais savoir quelles sont les dates des paiements des termes de 300 000 piastres. »« Je les connais parce que je les redoute, » repartit la duchesse. « Il y a toujours, vers cette époque, redoublement d'orgie. Le 3e paiement doit avoir lieu ces jours-ci. Nous sommes à l'échéance. » Saladin ne prit point de notes, mais quiconque eût observé sa physionomie aurait pu jurer qu'il n'en avait pas besoin. C'était encore une nouvelle phase de l'affaire. « Arrivons, s'il vous plaît, dit-il, au vicomte Hannibal et à la compagnie brésilienne. Cela m'intéresse, quoiqu'il me semble probable que le brillant napolitain s'occupe encore d'autre chose auprès de son excellence. »« L'affaire de l'émigration, répondit madame de Chavès, est une affaire comme toutes celles que nous voyons aujourd'hui. Elle a trait encore à nos biens au Brésil, non pas bien entendu au domaine de la province de Paris, déjà vendu, mais à d'autres, plus reculés vers le sud-ouest. C'est une société par action dont la fondation a coûté de grosses sommes à monsieur le duc et qui garantit des terrains labourables aux gens d'Europe qui consentent à s'établir au Brésil. « Il y a déjà eu, demanda Saladin, un versement opéré sur les actions. » « Je l'ignore, » répliqua madame de Chavès. Saladin rassembla ses notes et les mit en ordre dans son carnet. La duchesse le regardait faire, plus froide que lui, en apparence, désormais. « J'aurais espéré mieux, » dit Saladin, qui se disposait visiblement à prendre congé. « Je ne vois pas pour madame la marquise de Rosenthal une garantie suffisante dans la situation qui m'est présentée. » Et n'ayant pas ou ne voyant pas cette garantie suffisante, interrompit madame de Chavès, sans aucun symptôme d'amertume, vous séparez la fille de la mère. Par intérêt pour la fille, acheva Saladin. Par intérêt pour la fille, répéta la duchesse, c'est bien ainsi que je l'entends, car autrement ce serait une infamie. Saladin s'inclina. Il savait bien qu'il ne s'en irait pas sans avoir le dernier mot de madame la duchesse. Celle-ci reprit. « Vous m'avez mis en garde contre les excès d'un premier mouvement, contre ce rêve que pourrait faire une mère d'appeler à son aide la justice du pays pour avoir raison d'un mariage illégal en définitive, puisqu'il fut contracté sans le consentement des parents, avec une mineure qui venait d'atteindre sa 15e année. » Saladin sourit. Toutes ces questions me sont familières, dit-il. J'y ai songé beaucoup, et quoiqu'il fût possible de répondre judiciairement à une action pareille, j'ai préféré mettre Madame Renaud, il appuya sur ce dernier mot, en lieu de sûreté. Elle a peut-être même encore un autre nom, de même que moi, car nous ne sommes pas ici au confessionnal, chère madame. Je vous le dis dans la sincérité de mon cœur. Je suis maître de la situation. J'en suis maître dans toute la force du terme. Je trouverai des gendarmes à votre porte. Je serai entouré par eux que, du milieu de leur rang, je me retournerai pour vous dire encore « Je suis maître de la situation. » Et la seule chose qui me fâche, c'est que la situation ne soit pas meilleure. « Voulez-vous me laisser voir ma fille ?» demanda tout à coup Madame de Chavès. Chose véritablement singulière, Saladin n'était pas préparé à cette question, la plus naturelle de toutes. Il fut troublé si visiblement que Madame de Chavès se demanda si toute cette longue scène n'était pas une fantasmagorie. « Je vous prie de ne pas la mettre en mon pouvoir, insista-t-elle pourtant. Je ne saurais pas tendre un piège et j'accepte les choses comme vous les avez posées. Vous êtes le maître, je vous reconnais pour tel. Je vous demande uniquement la possibilité d'embrasser ma fille. Pour cela, je vous paierai le prix que vous voudrez. »« Oh, madame, » fit Saladin en jouant l'offensé. « Le prix que vous voudrez, » répéta Madame de Chavès, « car nous avons parlé de la fortune de Monsieur le Duc, mais nous n'avons rien dit de la mienne. » Les yeux de Saladin ne pouvaient pas devenir plus ronds, mais ils s'écarquillèrent. L'affaire entrait encore dans une nouvelle phase. « Vous ne me direz pas votre secret, » poursuivit la duchesse qui s'animait en parlant. « Je ne saurais pas où est cachée ma fille, ma pauvre chère enfant, sur le sort de laquelle nous discutons ici froidement, et pour qui je consentirais à mendier mon pain dans la rue. Nous monterons en voiture, vous me banderez les yeux. Je recouvrerai la faculté de voir au moment seulement où je serai en présence de ma fille. Pour cela, je vous le répète, monsieur, et que Dieu me préserve de vous offenser, je vous donnerai ce que vous demanderez. » Par contrat de mariage, monsieur le duc de Chavès m'a donné les diamants de sa famille, évalués à 200 000 piastres, et la propriété de sa terre de Guarda, dans la province de Coimbre, au Portugal, qui porte un revenu annuel de 120 000 francs. Saladin dépensait sa force de héros à garder son impassibilité. Des gouttes de sueur perlaient sous ses cheveux. « Madame, madame, dit-il, ai-je si mal réussi à me faire apprécier par vous? Je suis le marquis de Rosenthal. »« Vous êtes monsieur Renaud, » murmura la duchesse, non sans une nuance de dédain. « Si vous ne voulez pas, je croirais que vous avez appris par hasard différents épisodes d'une bien triste histoire. Je croirais... » Elle s'interrompit et sa voix trembla tandis qu'elle l'achevait. « Je croirais que vous spéculez sur ma fille morte. » Saladin resta un instant étourdi. La duchesse le mesura du regard et ajouta « Répondez ou sortez. » Saladin ne bougea pas, et comme la duchesse se levait écrasante de dédain, il fit sur lui-même un violent effort. « Madame, s'écria-t-il, disant pour la première fois la vérité qu'il devait entourer bientôt de nouveaux mensonges, je ne peux pas vous conduire chez votre fille parce qu'il n'y a pas de lieu où puisse vous recevoir votre fille. Nous en sommes arrivés à ce point de parler franchement, tous les deux. On ne cache pas aujourd'hui une jeune personne dans les entrailles de la terre, mais sous le masque d'une profession qu'on épaissit encore par un faux nom. Si vous montiez en voiture pour vous rendre chez votre fille, qui sait dans quel humble atelier vous la trouveriez, et entourée de quelle compagne? Je vous ai dit la vérité, madame, en toute chose, sauf peut-être en ce qui me concerne personnellement. Ne soyez pas irrité contre moi si j'ai diminué la distance qui sépare un pauvre proscrit allemand de l'héritière d'une grande dame telle que vous. Je suis pauvre, en réalité, voilà où gît mon seul mensonge, et j'ajoute bien vite, car la colère de votre regard me fait peur, tant j'ai de respect pour vous, tant j'ai d'affection pour celle que nous chérissons tous les deux, Justine et moi, j'ajoute bien vite que je vous demande 3 jours. Est-ce trop? 2 jours, et peut-être même moins, non plus pour vous conduire les yeux bandés vers celle que vous avez le droit de voir à visage découvert, mais pour l'amener ivre de bonheur dans vos bras. Il voyait battre le cœur de la duchesse, et certes, il avait bien changé de ton depuis la mention faite des 200 000 piastres, des diamants et du domaine de la Guarda dans le pays de Coimbré, au Portugal. Il fallait pour qu'il ne tombât pas aux pieds de son opulente belle-mère en lui disant « Dans une demi-heure, Justine sera sur votre sein », il fallait une impossibilité véritable, et nous verrons bientôt que l'impossibilité existait. Et Saladin pouvait être un diplomate assez retors, mais il n'avait pas ce clair coup d'œil qui perce le cœur humain. Il s'était dit « La première séance se passera en préliminaire », comme s'il y avait des préliminaires pour un cœur maternel. Les choses avaient marché plus vite qu'il ne l'avait cru. Il n'était pas en mesure de livrer. « 2 jours, répéta la duchesse en se parlant à elle-même, c'est long. » Puis, se tournant vers Saladin, elle ajouta « Je vous donne 2 jours, monsieur, et puisque vous parlez d'amener ma fille ici chez moi, je vais ajouter quelque chose aux renseignements que je vous ai fournis sur monsieur le duc de Chavès. Ils sont exacts. Seulement, de même que j'avais passé sous silence ma fortune privée, de même j'ai cru devoir taire ma position personnelle vis-à-vis de mon mari. Sachez tout avant de me quitter. Je suis coupable, monsieur, non pas à la façon ordinaire qui pourrait expliquer les soupçons jaloux de monsieur de Chavès, mais coupable à un plus haut degré peut-être, coupable des vices, coupable des folies et des malheurs de celui que j'ai accepté pour époux. Mon pouvoir sur monsieur le duc aurait pu être sans bornes. La tendresse qu'il m'a vouée ressemble à de l'adoration. C'est le chagrin de trouver à ses côtés une froide statue qu'il a jetée tout frémissant de colère et de vengeance au plus profond de l'orgie. Justine, en entrant dans cette maison, peut y trouver un père aussi bien qu'une mère. Il dépend de moi d'arrêter monsieur de Chavès sur la pente de sa ruine. Je le sais, j'en suis sûr. Bien souvent, je me suis reproché de ne l'avoir pas fait. La force me manquait. Mais maintenant, pour ma fille, j'aurai tous les courages. Il me semble que je n'aurai même pas besoin de feindre, que mon cœur s'ouvrira et que, pour ma fille, j'aimerai. Si j'aime, monsieur de Chavès fera pénitence à mes genoux et ma fille aura l'avenir d'une princesse. » Saladin avait remis son carnet sous son bras. L'affaire, qui avait un instant disparu derrière une nuée d'orage, se montrait de nouveau plus brillante que jamais, et chacune de ses facettes étincelait au soleil. Il y avait de quoi éblouir. Saladin salua respectueusement la duchesse et lui dit « Madame, dans 2 jours, et peut-être à demain. »